La quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Baron.
Au revoir 2020 et bonjour 2021. Une année commence et après nos derniers mois difficiles, on espère beaucoup de cette année nouvelle. Et plus sincèrement que jamais, on se souhaite le meilleur. Avec une formule qui prend tout son sens aujourd'hui, bonne et heureuse année. C'est ce que je vous souhaite à tous, vous qui êtes derrière votre poste ou votre ordinateur. Justement, on espère un peu moins d'écrans et d'appareils connectés cette année et un peu plus de proximité. Parce qu'une bonne année, c'est un peu une année gourmande. Une année où on dirait « c'est bon, c'est trop bon, c'est si bon ». Et chacun imagine ce qu'il veut. C'est une affaire de goût. Bon goût, mauvais goût, voilà. C'est une question digne d'un monologue shakespearien. Alors comme la quatrième de couverture s'intéresse à la culture, on a eu envie de réfléchir à cette histoire de goût, de bon goût. D'autant plus que l'ONU a déclaré que l'année 2021 serait l'année internationale des fruits et légumes et que le couscous a rejoint le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, l'imagination au fourneau. On va faire valser les casseroles et pétiller les papilles. Bon goût, mauvais goût, oh, nous on plébiscite la gourmandise, toutes les gourmandises, pour se consoler de ce qu'on a dû annuler en 2020 et pour attendre tranquillement ce qui arrivera en 2021. En plein flou artistique, que nous réserve cette quatrième de couverture de janvier? Quoi de neuf dans la 15e édition de cette petite émission culturelle? D'abord, on reviendra sur ce qui a marqué notre mois de décembre. On écoutera en guise de quatrième de couverture ce que Lola Lafont dit elle-même de son dernier roman « Chaviré ». On ouvrira son roman, bien sûr, et c'est Christine Labourdette qui nous en lira quelques pages. Enfin, on trouvera quelques repères pour remplir nos agendas de 2021 tout neuf. Alors vite, on se lance dans la quatrième de couverture de janvier sur Radio Albatros. En décembre, on a peut-être trop facilement cru au Père Noël, en espérant la réouverture des salles de spectacle, des musées, des cinémas le 15. Hélas, tout a été repoussé au mois de janvier. Malgré cette douche froide, le monde du spectacle a poursuivi, plein d'amertume, c'est vrai, mais plein d'espoir aussi, sa quête de contact avec les publics par écran interposé, mais en direct cette fois, devant des salles vides, toujours, mais des salles à manger pleines, parce que les diffusions numériques se sont mises au parfum et au lieu de l'avalanche de spectacles anciens rediffusés gratuitement au printemps, en décembre, cette fois, les artistes ont mis en vente des places à distance, des rendez-vous exclusifs payants. L'Opéra de Paris a proposé en direct le 13 décembre pour la première fois la Bayadère, l'éblouissant ballet de Nureyev, pour inaugurer le concept. Le streaming payant s'est imposé. C'est le moment de tout essayer en cette période où le public est absent mais l'institution en marche, a déclaré le directeur de l'Opéra de Paris en lançant avec ce ballet la plateforme de vidéo à la demande, l'Opéra chez soi. Même si rien ne remplace le spectacle vivant, ce procédé a été une chance pour les danseurs qui étaient prêts et pour le public qui a répondu présent. Et pour Aurélie Dupont, la directrice de la danse, c'est peut-être là le moyen de toucher des enfants doués qui n'auraient pas osé sinon s'inscrire à l'opéra. De plus en plus d'artistes ont ainsi rendu payant leurs prestations pour retrouver leur public le temps d'un concert suivi en direct de chez soi. Il suffit d'acheter sa place et d'être ponctuel au rendez-vous. Un autre usage des écrans a explosé lui aussi en décembre, c'est celui du visionnement des séries. Parce que faute de grands écrans accessibles au cinéma, l'offre et la demande des séries a connu une embellie en 2020 sur le petit écran. On a d'autant plus regretté le report des rencontres organisées chaque année en décembre par Havre de cinéma sur les séries. Parce que le phénomène s'intensifie. Plus de spectateurs, plus d'offres et une montée en gamme constante. Et le confinement n'a fait qu'alimenter ce besoin du public pour des récits très rythmés qui s'emparent de l'esthétique et du brio du cinéma. C'est un format court et efficace qui permet d'appréhender le monde de chez soi. Alors pour s'aérer un peu, on a retrouvé dès le 1er décembre le chemin des bibliothèques et on a pu voir ou revoir les expositions ouvertes avant le confinement. Ainsi, la bibliothèque Salacrou, au Havre, a repris l'exposition de ses dernières acquisitions, les planches de 6 auteurs de bande dessinée havrais qui rejoignent ainsi, un signe honneur, les manuscrits les plus précieux, porteurs des traces du travail de création. On est habitué aux ratures des écrivains. Leurs manuscrits sont parfois publiés à grands frais. En décembre, ainsi, les éditions des Saint-Père ont édité le manuscrit de La Peste d'Albert Camus, un document précieux, livré dans un coffret, 500 feuillets rédigés à l'encre bleue et corrigés à la main par Camus en noir ou en crayon. Un trésor magique. Ici, il s'agit des crayonnés, des recherches de silhouettes, de cadres, de vignettes, de couleurs, de nuances. 6 auteurs, 6 univers. Les doux dessins d'Edith sur son cahier d'écolier, les éléments tourmentés de Riff Rebs, ceux d'Agnès Maupré, Yves Boitel et son amour de l'architecture du Havre, Cocor, Siroux, ces bulles et croquis, les secrets de la BD havraise, qui sera prolongée en janvier. En décembre, toujours, si les fêtes familiales se sont adaptées tant bien que mal à la situation sanitaire, on a assisté au succès phénoménal d'un CD de circonstance, celui de Chilly Gonzalez, le pianiste de jazz, qui a trouvé le ton juste en réécrivant des versions douces et mélancoliques des chants de Noël, souvent sucrés jusqu'à l'écœurement. Un CD à écouter au calme, chez soi, pendant le couvre-feu, un livre à la main. En décembre, on en a eu des livres à la main parce que en décembre, les prix littéraires sont tombés et avec eux, notre envie de lire à notre tour les romans primés et d'en trouver un à notre goût. Parce que c'est toujours une histoire de goût, hein, comme les séries télé, on n'aime pas, ou les bandes dessinées, bon goût, mauvais goût. Alors lire le prix Goncourt, est-ce que c'est une preuve de bon goût ? Pff, à chacun de se prononcer. Hein. Mais le bon goût du prix Goncourt cette année, c'est d'avoir remis en avant une pratique littéraire originale, l'Oulipo. Hervé Letellier, le lauréat du Goncourt, a patiemment expliqué son projet d'écriture sous contrainte en digne héritier de son fondateur Raymond Queneau, qui naquit au Havre un 21 février. On a dit que les romanciers oulipiens construisaient au fil des pages un labyrinthe dont ils essayaient patiemment de trouver la sortie ensuite. Alors si le tricotage d'un récit vous tente, plongez-vous dans l'anomalie. À moins que vous n'ayez trouvé au pied de votre sapin le recueil de vraies lettres inventées que l'Oulipo a publié en décembre. Cher Père Noël, ce sont des pastiches, des détournements délicieux, des blagues ou des faux-semblants. Il y en a pour tous les goûts, de Blaise Pascal à Jean-Claude Van Damme, JCVD pour les intimes. Du fabricant de meubles suédois, Nikea, au syndicat interpolaire des lutins. De quoi chasser la morosité ambiante. Un autre prix a retenu toute notre attention, c'est celui du roman des étudiants France Culture Télérama, attribué cette année à Lola Lafont pour Chavirer. Finaliste de nombreux prix, elle a finalement obtenu cette récompense, décernée par des jeunes gens touchés par l'histoire de Cléo, jeune fille naïve, piégée, femme silencieuse, hantée par son passé. On aurait adoré, évidemment, interviewer Lola Lafont, hélas. Mais grâce aux rencontres vidéo organisées par le Goncourt des lycéens et enregistrées, on a retrouvé ce qui pourrait être sa 4e de couverture.
pourquoi la danse? Je pense qu'il y a sans doute mon passé qui joue là-dedans, puisque ma première vie était dans la danse, que j'ai commencé la danse très petite et que j'ai continué jusqu'à l'âge de 25 ans à un niveau professionnel. Et que moi, je ne connaissais pas du tout la danse dont je parle. Donc là, pour ça, il m'a fallu vraiment me documenter, rencontrer des danseuses de l'époque, rencontrer des kinés, rencontrer des habilleuses, parce que le personnage de l'habilleuse, par exemple, je suis nulle, je ne sais même pas coudre un bouton, donc vraiment, je vous assure que j'ai eu besoin de documentation. La danse aussi, parce que pour moi, l'écriture, c'est quelque chose de physique. Il faut rentrer dans le corps du texte, il faut rentrer dans les fibres musculaires d'une personne pour la comprendre. Enfin, j'ai l'impression que la danse me permettait d'être dans un monde d'effort, de douleur physique, d'abnégation, et aussi de brillant pour les autres. Et finalement, j'ai beaucoup travaillé sur la lumière. Vous voyez, au début, Cléo, elle est éclairée. Elle est sur scène. Elle est maquillée. Tout est maquillé. Elle est là pour faire des choses magnifiques, belles, qui font oublier aux autres leurs soucis, quand elle n'arrive à rien oublier. Donc, il y avait tout ça qui jouait beaucoup. Et puis aussi, j'ai un amour très très grand pour ce monde, parce que c'est le monde d'un travail qui est modeste. C'est un travail fou pour peu de résultats, et personne ne connaît le nom des danseurs, des danseuses, et voilà, c'est un monde qui me touche.
Comment avez-vous choisi ce titre, chavirer? Pourquoi ce verbe, ouais, insiste-t-elle plutôt que basculer?
Ah, j'avais pas pensé à basculer, mais c'est pas mal aussi, basculer. Alors chavirer, d'abord, un verbe à l'infinitif en français, ça a une puissance, pour moi en tout cas, c'est un geste. Vous savez, c'est quand même chavirer, en dehors de la danse, c'est pour moi comme un roman de gestes. Je sais qu'on dit une chanson de gestes, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chacun des personnages, tous, sont finalement obsédés par un geste qu'ils n'ont pas fait. Donc Cléo n'a pas tendu la main à Betty, Jonas n'a pas protégé Cléo, l'habilleuse n'a pas signé la pétition, le kinési n'a pas compris les mots de Betty, etc. Et chavirer, pour moi, il y a quelque chose de la danse, et puis il y a une ambiguïté dans le verbe chavirer, parce qu'on peut chavirer par amour.
C'est le moment d'ouvrir notre parenthèse littéraire et de lire quelques pages de Chavirer. On retrouve Cléo en octobre à son entrée au lycée.
La prof de français avait déclenché l'enthousiasme en annonçant qu'une fois par mois, ils commenteraient à l'oral le texte d'une chanson de leur choix. Les prénoms avaient été tirés au sort. En octobre, Jonas formerait un binôme avec Cléo. Celle-ci semblait soumise à un emploi du temps d'adulte surmené, mais ils finirent par se mettre d'accord pour un rendez-vous le samedi suivant au café Le Pactole. Les énumérations de chanteurs tinrent lieu de présentation. Jonas proposa les Rita Mitsuko ou Higelin, un bon vieux téléphone. Côté vieillerie, ses parents possédaient l'intégrale de Barbara et de Brel. Cléo ne connaissait pas bien Rita Mitsuko ni Higelin, mais ça lui irait. Elle écoutait de tout, elle lui laissait le choix. Tout? Impossible. Personne n'aimait tout. C'était une prise de position que d'aimer un artiste. Ça disait beaucoup de soi. Favoriser un style plutôt qu'un autre, c'était beaucoup plus qu'un choix esthétique. On ne pouvait pas écouter les Rita et Jeanne Masse, s'indigna Jonas. D'accord, fit la jeune fille, sommée de donner un nom. Il y en avait deux qu'elle aimait mieux que les autres, Goldman et Mylène Farmer. Jonas crut que Cléo plaisantait, pouffa. Cléo, il s'apprêtait à se lancer dans une démonstration relative à l'impossibilité de leur collaboration. Quand la jeune fille, assise sur la banquette anthracite, griffée de coups de cutter, avait appliqué la paume de sa main à sa poitrine. Ici. Elle lui étreignait le cœur, ses chansons. Jean-Jacques Goldman la saisissait jusqu'ici. Avec. ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Et Mylène Farmer aussi, suspendue au lit comme une poupée qu'on a désarticulée. Cléo voyait bien que Jonas trouvait ça nul. Mais pourquoi ? Il avait dit aimer la poésie, pourquoi pas celle-là ? Vivre des songes à trop veiller, prier des ombres et tant marcher. Jonas, sidéré, avait préféré acquiescer pour couper court. Se retrouver coincé avec elle l'accablait. Il avait hâte de s'en plaindre à sa sœur. Il fallait que ça tombe sur lui. Mylène Farmer, Goldman. En ce qui concernait les anglo-saxons, Cléo aimait surtout les CD entendus à son cours de danse. Janet Jackson, Madonna. Elle lui passait dans le sang jusqu'aux pieds. Jonas hocha la tête, terrassé. Il conclut d'une vague plaisanterie. Il formerait donc un gouvernement de cohabitation. Il se chargeait d'incarner Mitterrand et lui laissait Chirac. Ils trouvèrent un accord le samedi suivant en la personne d'Étienne Dao et de son « Duel au soleil ».
Cette année pleine lune rousse triangle des Bermudes, je vais rimer latitude, solitude et incertitude. Entre deux surprises parties, tu m'as surpris, t'es parti. Seul je suis folle dans cette jungle, ça me rend dingue, t'es tu te rendras provoqué duel avec toi. L'horizon s'éclaircit sublime, le soleil s'est levé. Dans le rôle du rebelle des sables, enfin tu apparais, défiant toutes tes attitudes dans les dunes cachées.
Avec le duel au soleil d'Étienne Dao, on plonge direct en 1986, date de la sortie de son album Pop Satori, qui est en phase avec le passage du roman de Lola Lafont. Merci Christine Labourdette. Cléo, l'héroïne du roman, se heurte avec ses goûts de midinette au goût plus branché de Jonas. Et Lola Lafont se penche avec beaucoup de tact et d'affection sur l'univers de Cléo, bercé par les émissions de télé grand public qui l'enchantent. La petite fille qui rêvait de devenir danseuse étoile ne sera que danseuse d'arrière-plan, élément anonyme d'un décor à paillettes, jamais nommé au générique des télévisions populaires. On est bien loin du ballet de Nourieff retransmis le 13 décembre en streaming payant. Pas de nomination sur le plateau au rang de danseur étoile pour elle, comme Paul Marc en décembre. Pour Cléo, qui n'avait pas le bon goût de Jonas en matière de chansons, ce sera « Ça, c'est Paris », une revue de pacotille à la télé et le piège où des prédateurs abuseront la gamine de banlieue. Qui sait si aujourd'hui elle n'aurait pas osé tenter sa chance à l'opéra ? Et nous ? Est-ce qu'on sera toujours accro aux écrans en 2021? Et en janvier, on fera quoi d'autre? Eh bien, on va ouvrir nos agendas. Après avoir attendu le Père Noël en décembre, on va attendre la confirmation des dates reportées en janvier. Les cinémas pourront peut-être accueillir le festival Télérama du 27 janvier au 2 février, pour qu'on revoie quelques-uns des 16 films annoncés. Antoinette dans les Cévennes, Dark Waters, Été 85, on attendra. Le festival littéraire Le Goût des Autres, aura peut-être lieu du 21 au 24 janvier sur le thème réel, irréel. Et ce même week-end, la France célébrera les livres avec les nuits de la lecture relayées par toutes les bibliothèques, si tout va bien évidemment. Les musées pourront-ils ouvrir leurs portes au public et leur offrir les expositions qui étaient fin prêtes le 15 décembre ? Les belles affiches du MUMA au Havre nous donnent toujours envie de découvrir les paysages d'hiver annoncés. Les théâtres espèrent lever leurs rideaux sur les spectacles prêts à nous emballer depuis décembre. À Fécamp, le Passage a déjà fixé la date du 19 janvier pour présenter La Princesse au Petit Pois. Le Volcan au Havre a reporté la pièce de la compagnie Actée, Attention, au 9 mars. La compagnie Actée, qui est prête à présenter sa lecture musicale des lettres échangées entre Georges Sand et Gustave Flaubert, le 26 janvier à Rouen, et inaugurera ainsi l'année Flaubert 21, qui célébrera le bicentenaire de sa naissance. Et ça, c'est un bicentenaire qui va faire du bruit, parce que la Seine-Maritime a décidé de flaubériser les sites et les musées du département. Flaubert et les voyages, en Italie, en Égypte, Flaubert et les psittacidés, enfin, les perroquets, en mémoire de Loulou, le perroquet de Un cœur simple, ancêtre peut-être du Laverdure, le perroquet de Zazie dans le métro de Queneau. Flaubert et la botanique, Flaubert et la gastronomie, puisqu'un livre de recettes vient d'être publié en son honneur, À table avec Flaubert, en déclinant ses recettes préférées, associé à une balade littéraire à travers des passages gourmands de son œuvre, comme cette définition extraite de son dictionnaire des idées reçues. Boudin, signe de gaieté dans les maisons, indispensable la nuit de Noël. On aura l'occasion de revenir sur toutes ces réjouissances pendant l'année. Mais dès à présent, notons qu'un concours de nouvelles est ouvert à tous jusqu'au 4 mars. Il vous suffit de terminer votre texte par cette phrase tirée de l'éducation sentimentale. Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. L'éducation sentimentale, c'est le thème justement de cette 15e édition du concours de nouvelles de Normandie Livres et Lecture. Avant le 15 mars, et vous trouverez les informations sur leur site. Le Festival de Coutances a commencé lui aussi à avancer quelques dates pour le printemps, et le 40e Festival de Jazz sous les pommiers devrait faire oublier la triste année 2020. C'est Ibrahim Malouf qui fera l'ouverture le 7 mai. Trompettiste virtuose, compositeur passionné, il touche un public large du jazz à la pop, au rock, métissé de musique orientale. Vous avez sans doute reconnu sa présence auprès de Vincent Delerme à la fin de la 4e de couverture de décembre. Il l'avait rejoint sur la scène du Bataclan dans la version live éclatante de Fanny Ardant et moi. Heureux de retrouver Ibrahim Malouf et ses notes venues d'Orient à Coutances au printemps. En attendant, si tout va bien, l'Institut du monde arabe à Paris ouvrira le 27 janvier son exposition prévue de longue date sur une autre forme de musique orientale, le chant, et plus précisément sur les chanteuses orientales. avec un titre très alléchant, Diva arabe, de Kalthoum à Dalida. Dalida. Alors, elle n'a pas toujours été appréciée comme il se doit. Et on peut penser que la Cléo de Lola Lafont avait pu rêver devant ses robes à paillettes éblouissantes à la télévision. Mais évidemment, pas Jonas. Pourtant, les goûts changent et les frontières entre le bon goût et le mauvais goût évoluent. La preuve, c'est que le Palais Galliera à Paris, le musée de la mode, avait consacré en 2017 une exposition à l'incroyable garde-robe de la diva. Des costumes disco à paillettes, au fourreau hollywoodien, elle a tout porté. Et après Yolanda, Miss Égypte 1954, place à la star mondiale de la chanson. Alors, mauvais goût d'hier, bon goût de demain, Picasso a écrit que le goût, c'est l'ennemi de la créativité. Il reste un domaine où le goût est libéré et souverain, c'est celui des plaisirs de la table. Et comme l'année 2021 a été labellisée Année internationale des fruits et légumes, on va inventer les recettes les plus folles en attendant la fin du confinement. Des pommes, des poires et des scoubidoubidou pour refermer la quatrième de couverture en chanson. Pour attendre aussi tranquillement les prochaines directives de 2021. On va prendre le temps qu'il faudra et laisser passer les cours d'eau. Et en écoutant qui ? Eh bien Pomme, bien sûr. Elle qui a choisi un nom de scène si gourmand. Février, et d'ici là, bonne et heureuse année à tous sur Radio Albatros.
C'était la quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.